France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. L'Iran reste coupé du monde et la répression demeure féroce. Voilà 3 semaines qu'une nouvelle flambée de colère, de désespoir soulevait le peuple iranien contre le régime des mollahs, à Téhéran, dans les petites villes, partout dans le pays. De ce que l'on sait par bribes, grâce à quelques coups de téléphone, de brèves connexions Internet qui échappent au blocage officiel, les arrestations se poursuivent et les cadavres s'amoncellent, des civils abattus à bout portant, des sacs mortuaires entassés dans les rues. Les chiffres varient, les informations sont encore éparses, mais il y aurait plus de 3000 morts, 20 000 arrestations. On se souvient des mouvements sociaux de 2009, 2017, 2022, Femme, Vie, Liberté, mais le rythme et surtout l'ampleur croissante des manifestations témoignent du rejet massif de cette théocratie chiite, de cette idéologie en armes fondée depuis 47 ans sur l'alliance entre le clergé et les forces de sécurité, une alliance cimentée par la corruption, le pillage des richesses de ce pays somptueux, plongé dans la misère. L'Iran compte 92 millions d'habitants. Plus de la moitié vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté, tandis qu'une économie parallèle, alimentée en partie par les sanctions internationales, bénéficie à une oligarchie déterminée à défendre ses privilèges. Pour sa survie, le régime fait montre d'une brutalité sans précédent. Début janvier, tout à la satisfaction de son coup d'éclat au Venezuela, Donald Trump menaçait de taper très fort, je le cite, « Tenez bon, l'aide est en route », lançait-il mercredi encore aux manifestants, avant d'affirmer jeudi que la situation se calmait, qu'il n'y aurait plus de massacres, plus de pendaisons, il en avait reçu l'assurance. Y aurait-il une sorte de négociation entre Téhéran et Washington ? Pourquoi les amis arabes du président, l'Arabie saoudite, les Émirats, mais aussi la Turquie et même Israël, qui rêvent pourtant d'un changement de régime à Téhéran, ont-ils fait pression pour le dissuader d'intervenir ? Moscou et Pékin sont en principe les meilleurs alliés des mollahs, on les entend à peine. Quelle que soit la cruauté de la répression, le régime paraît à terme condamné. En Iran et dans la diaspora, les forces d'opposition sont-elles en mesure de préparer une relève avec ou sans Reza Pahlavi, le fils du Shah déchu? Quel espoir pour la société iranienne quand, encore une fois, l'attention du monde se détournera de son sort? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Azadeh Kian. Vous êtes professeur émérite de sociologie à l'université Paris Cité. Je suis ravie d'accueillir téléphoniquement Sophia Marroug, professeure assistante en histoire des relations internationales à la Sorbonne à Abu Dhabi. Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne, et Clément Terme, chargé d'enseignement à l'Université Paul-Valéry de Montpellier, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. Clément, commençons ensemble. Est-ce que ce matin, il y a une sorte d'accalmie, autant du côté des manifestants que du côté des forces de répression?
Alors, je ne parlerai pas d'accalmie, mais je dirais que la surenchère sécuritaire et idéologique, la violence d'État, les milliers de morts, on produit un couvre-feu, on produit un déploiement sécuritaire massif dans tout le pays pour reprendre le contrôle des rues. Et donc après la dissuasion qui a été mise en place donc par le pouvoir avec les tirs à balles réelles, l'usage de la force, notamment par la semaine dernière dans les grandes manifestations, on est passé dans une nouvelle phase, une phase d'enquête par le pouvoir qui va... une phase judiciaire avec les procès qui vont commencer, les confessions forcées à la télévision nationale et l'utilisation de la vidéosurveillance, l'identification. Et donc, on va passer dans une deuxième phase de la répression qui va viser à instaurer la peur, la terreur pour que le calme, ce que vous appelez l'accalmie, perdure. Mais il faut bien comprendre que cette situation sécuritaire n'est pas soutenable pour le régime même, c'est-à-dire la coupure Internet nationale qui a dépassé celle de 2019. Et à l'époque, on avait connu le bilan de 1500 morts après le rétablissement de la connexion Internet. Cette fois-ci, il y a eu aussi la coupure des lignes fixes, des réseaux mobiles. Donc là, on voit une très légère reprise du réseau Internet à 2%. Ce matin, on voit aussi des connexions téléphoniques qui sont partiellement rétablies. Mais le régime a peut-être menacé d'une reprise en plusieurs phases, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars, parce qu'il craint les funérailles et l'anniversaire de la mort des manifestants qui pourraient être aussi l'objet d'une nouvelle mobilisation. En d'autres termes, si vous voulez, la situation sécuritaire, la réponse sécuritaire ne peut pas durer parce que le coût de la coupure Internet sur le plan économique est immense et donc la situation n'est pas tenable pour le régime non plus. C'est-à-dire que certes, ils ont réussi à empêcher les manifestations de perdurer et de s'étendre, mais la force, les moyens utilisés ne peuvent pas l'être dans la durée. Donc ils envisagent une reprise de la connexion Internet d'ici au nouvel an iranien, au mois de mars. Mais plusieurs milliards de dollars seront perdus pour l'économie iranienne. Donc cette répression a un coût économique, mais un coût politique également, puisque la question va se poser de la loyauté des forces de sécurité dans un contexte d'appauvrissement accéléré du pays.
Pour le moment, en tout cas, le comptage des victimes reste évidemment partiel. Il y a une ONG basée en Norvège, Iran Human Rights, mais qui ne comptabilise que des chiffres venus partiellement de quelques provinces. Et là, ce matin, le ministre français des Affaires étrangères a précisé qu'une franco-iranienne a été blessée. Azadeh Khian, vous avez, je crois, de la famille, une sœur à Téhéran. Comment pouvez-vous avoir des nouvelles ?
Écoutez, pendant plus d'une semaine, Internet s'est complètement coupé. On n'avait aucune nouvelle. Depuis avant-hier, ils peuvent nous appeler, mais pour quelques secondes, le matin, juste pour dire s'ils vont bien ou non. Ma famille va bien, mais j'ai pu discuter très brièvement avec une femme qui habite dans une résidence à l'ouest de Téhéran. Elle me disait que rien que dans sa résidence, trois jeunes qui sont allés manifester ont été tués, un quatrième blessé. Elle me disait l'ampleur du massacre est vraiment inédit. Attendez, lorsque Internet soit rétabli, vous allez voir. D'autres disent avoir filmé les manifestations et donc le massacre des manifestants aussi, mais pour l'instant, ils ne peuvent pas envoyer des images. Et même ceux qui possédaient de Starlink n'osent pas l'utiliser par peur d'être identifiés par le régime. Donc en fait, la répression est vraiment très très forte, beaucoup plus que lors des précédents mouvements sociaux.
Ce qui frappe aussi Azadeh, c'est à la fois l'ampleur géographique. Quand on regarde une carte du pays avec tous les centres, les petites villes, les provinces, évidemment, surtout comme d'habitude, plutôt vers le nord et vers l'ouest, mais un peu partout. Selon vous, quelles sont les différences par rapport aux mouvements de protestation précédents ?
Écoutez, par exemple, si vous prenez le mouvement de protestation de janvier 2018 et aussi 2019, lorsque le prix de l'essence a été triplé, c'était essentiellement le mouvement des classes populaires et des classes moyennes inférieures, des jeunes hommes dans plus de 140 villes du pays aussi à ce moment-là. Et ils ont été fortement réprimés, mais il s'agissait juste des hommes des classes populaires. Les femmes n'y participaient pas parce que très peu de femmes travaillent en Iran, en tout cas sur le marché officiel. Le mouvement Femmes de Liberté de 2022, ça a commencé en septembre suite à l'assassinat d'une jeune femme kurde, Jina Mahsa Amini, pour avoir mal porté son voile. Deux semaines plus tard, une jeune fille balouche de 14 ans avait été violée par le directeur d'un commissariat de sa ville. Et donc tout ça, effectivement, provoquait des mouvements de protestation, mais qui étaient essentiellement composés de jeunes. Bien évidemment, pour la première fois, on voyait aussi massivement les minorités ethniques et religieuses, donc les Kurdes, les Baloutches, bien évidemment, et puis d'autres, mais ce n'était pas un mouvement auquel avait avaient participé, les parents, si vous voulez. Donc, c'était essentiellement des jeunes. Parmi les personnes arrêtées, la moyenne d'âge était de 20 ans. Mais à l'heure actuelle, le mouvement actuel a commencé, comme on le sait, par les commerçants du bazar de Téhéran qui ont rejoint le ras-le-bol général du fait de l'inflation très importante, de la perte de la monnaie, de la valeur de la monnaie iranienne par rapport aux devises, etc. La perte de pouvoir d'achat de la population et ont, pour la première fois, sont sortis de bazar pour manifester. Et là, les étudiants des universités de Téhéran, effectivement, se sont rejoints à ces manifestations. Et pendant les quelques premiers jours, hein, on voyait aussi, là encore, Internet fonctionner. On voyait des grands-parents, des enfants, des parents, tout le monde était dans la rue et manifestait pacifiquement, en tout cas dans des grandes villes. Puis le régime a commencé à réprimer les villes de l'ouest de l'Iran, en particulier trois provinces pauvres, Lorestan, Chawmahal, Bakhtiari, et aussi une autre, Ilam, qui sont des provinces très pauvres. Et là, la répression a commencé par là. Et puis ça a continué jusqu'à ce que finalement, même à Téhéran et dans d'autres grandes villes, ils commencent à effectivement tirer sur les manifestants. Cette fois-ci, ça a commencé par des revendications économiques, certes, mais on sait qu'en Iran, c'est des réseaux mafieux qui dirigent à la fois l'économie iranienne, mais aussi le champ politique. Et donc, les manifestants, le seul slogan unificateur, c'était « mort au dictateur, mort à Khamenei ». On visait le régime, on visait la tête de ce régime. Et par là, l'ensemble du régime. Donc, pour la première fois, il y avait à la fois des revendications d'ordre économique, mais également politique.
Bruno Tertrais, le président des États-Unis, au début de cette semaine, a, comme d'habitude, il s'exprime extrêmement souvent sur les réseaux, et en particulier le sien, True Social, et donc il écrit « Je vais taper très fort si le régime de Téhéran continue de massacrer les manifestants ». Le mercredi, il dit à ses manifestants « Tenez bon, l'aide est en train d'arriver », et jeudi, changement de ton, « Ah ben voilà, j'ai reçu des assurances ». Plus d'exécution. Comment expliquez-vous, Bruno, ce changement de pied aussi rapide ?
D'abord par la personnalité de M. Trump, tout simplement. Donald Trump aime s'exprimer tout simplement parce qu'on parle de lui, on attend ce qu'il fait et il se sent au centre du jeu. Malheureusement, c'est un aspect non négligeable de la manière des explications de la manière très particulière dont il s'explique. Deuxièmement, je crois qu'il ne faut pas totalement négliger une certaine sensibilité de Trump, même si ça peut surprendre, à l'aspect humanitaire. Rappelons-nous que en 2018, lorsqu'il avait décidé finalement de procéder à des tirs sur les installations chimiques de la Syrie, eh bien, il avait été sensibilisé au sujet par sa fille, et qui lui avait montré des photos. Donc cet aspect humanitaire n'est peut-être pas totalement à négliger. Enfin, dernier aspect, sans doute le plus important, je crois que Trump a compris, parce que tout le monde lui dit, ses conseillers, le Pentagone et ses alliés, que c'est quelque chose, il serait extrêmement risqué d'intervenir en Iran, d'abord parce que le résultat politique ne serait pas du tout garanti, que des représailles seraient possibles, que chez les Républicains, on n'est pas du tout unanime à soutenir l'idée d'une action massive contre l'Iran. Et puis, bien sûr, tous les voisins, à peu près tous les voisins du pays, et le disent à Trump, craignent que le chaos soit ajouté à la répression. Donc je crois que tout ceci explique ces hésitations de Trump, à la fois sa personnalité, une certaine sensibilité à l'aspect humanitaire, mais aussi tous les freins qui peuvent exister, les freins politiques, stratégiques, militaires, à une action massive des États-Unis contre l'Iran aujourd'hui. Au résultat, je ne suis pas du tout certain que, alors je pense qu'il n'est pas, évidemment pas exclu, mais c'est jamais exclu que l'Amérique puisse à un moment décider de frapper, mais je crois que la probabilité reste tout de même assez faible aujourd'hui.
Mais Bruno, quelles seraient les limites opérationnelles? Parce qu'on sait que l'essentiel de la flotte américaine a été stationnée aux Caraïbes. Néanmoins, je crois qu'il y a un porte-avions qui fait route maintenant à nouveau vers le Moyen-Orient. Il y a quand même entre 40 000 et 50 000 soldats américains dans les bases déployées au Moyen-Orient, même si je crois que la base qui est au Qatar a été en partie évacuée il y a quelques jours. Donc, limites opérationnelles et aussi, vous l'avez mentionné, mais je crois que cela mérite un peu plus de détails, les pressions autant des alliés arabes que d'Israël pour que Donald Trump reste relativement calme.
Oui, les limites opérationnelles, il n'y en a pas tant que cela, dans la mesure où ce que vous n'avez pas mentionné, Christine, c'est la capacité d'action par des bombardiers stratégiques qui avaient été d'ailleurs utilisés en juin 2025. Or, les États-Unis ont pu constater à la suite des frappes israéliennes et américaines de juin qu'on pouvait, pardonnez-moi l'expression, on pouvait rentrer dans l'espace aérien iranien comme dans du beurre, que les défenses antiaériennes, notamment russes, d'origine russe, n'étaient pas aussi efficaces que ce que pensaient l'Iran et son ami russe. Donc je ne pense pas que ce soit tellement une question de limites opérationnelles. C'est plutôt le risque de représailles sur, bien sûr, les installations américaines dans la région, sur les pays voisins et, bien sûr, sur Israël. Enfin, ne négligeons pas tout de même qu'une grande partie du camp MAGA, du camp qui soutient, enfin de cette majorité du Parti républicain qui soutient le président Trump, n'est pas du tout, ne soutient pas du tout ce type d'opération, parce que le Venezuela c'est une chose et encore tout le monde ne l'a pas soutenu dans le camp MAGA, mais l'Iran c'est évidemment autre chose. Du côté d'Israël, évidemment, du côté israélien, on serait ravis si ce qu'on appelle là-bas la tête du serpent, je cite, devait un jour tomber. Mais je crois qu'Israël craint encore plus le chaos que la situation qui prévalait jusqu'à il y a une quinzaine de jours avec un Iran affaibli, un Iran qui pensait encore ses plaies après les événements de juin 2025. Le chaos, c'est quelque chose que personne n'aime et certainement pas Israël. Il y aurait des risques de fuite de technologie, de fuite de matériel militaire sensible, de peut-être une partie de l'expertise nucléaire. Donc tout ceci rend Israël en fait assez prudent dans l'immédiat, même si évidemment Netanyahou et une très grande partie, enfin si ce n'est la très grande majorité de l'opinion israélienne, rêverait que ce régime tombe. Mais donc pour résumer, je crois que comme la plupart des voisins immédiats de l'Iran, Israël craint sans doute davantage le chaos qui serait causé par une intervention militaire qui serait accélérée ou intensifiée par une action militaire que la situation qui prévalait jusqu'à il y a quelques semaines, sans compter, encore une fois, c'est un dernier point, que les capacités israéliennes d'interception des missiles iraniens ne sont pas encore totalement reconstitués. Le tout dernier point, à l'évidence, Israël suit avec des capteurs sur place, des personnes, des moyens de surveillance extrêmement nombreux et perfectionnés. Israël suit tout ceci avec une très très grande attention, mais je doute fort, on le dit beaucoup, mais je doute fort que les services israéliens soient un acteur important de ce qui se passe sur place actuellement.
Oui, c'est évidemment toujours le refrain du régime que d'accuser l'ennemi, entre guillemets, l'ennemi sioniste et l'étranger en particulier. On sait que les Iraniens sont fiers de leur passé, très nationaliste. Allons maintenant à Abu Dhabi, vous rejoindre Sophia Marouk. Je rappelle que vous travaillez à la Sorbonne, l'antenne locale de la Sorbonne. Vu d'Abu Dhabi, est-ce que la tension est perceptible ?
Elle n'est pas tout à fait perceptible parce que la situation reste contrôlée. En revanche, il y a eu des indications, en effet, de l'ambassade de France qui indiquait qu'il fallait bien suivre les instructions et les informations qui pouvaient arriver, de crainte justement qu'il y ait une attaque des bases militaires aux Émirats arabes unis.
Vous avez travaillé, je crois que c'est même le sujet de votre thèse qui a été récompensé d'un prix important, vous avez travaillé sur les gardiens de la Révolution et en particulier sur toute une mémoire d'archives sur Internet. Comment expliquez-vous l'adhésion en fait des forces de sécurité après quelques 47 ans de ce régime, l'adhésion des forces de sécurité aux mollahs eux-mêmes? Quel est ce mariage entre idéologie religieuse, idéologie tout court et violence répressive?
Alors je dirais que justement il y a de moins en moins de liens religieux et qu'il y a beaucoup plus une logique ploutocrate, technocrate et assez répressive. Et d'ailleurs, on n'a pas rappelé comment les manifestations avaient commencé le fin décembre. Le début des manifestations révèle bien dans quelle situation se trouve le régime actuellement. L'administration Pezeshkian, qui est donc le président réformateur depuis 2024, cette administration avait proposé au Parlement iranien une loi au Parlement visant à réguler la fluctuation du change, avec un taux de change préférentiel afin d'éviter les fluctuations trop importantes de la monnaie. Le problème, c'est que ça, si ça pouvait aider une partie de la population iranienne qui est acculée par les effets des sanctions et la fluctuation des prix, ça dessert une partie de ce régime dont les gardiens de la Révolution sont les maîtres, qui s'appuie sur cette économie, cette rente des sanctions et ce taux de change très fluctuant. Et ça révèle finalement que les gardiens de la Révolution aujourd'hui ont réussi petit à petit, surtout à partir des années 90, et ça s'est renforcé à partir des années 2000, à pénétrer l'ensemble du système économique du régime, mais un système économique qui est parallèle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gardiens de la Révolution qui sont aussi bien impliqués dans les affaires militaires que dans les affaires commerciales, économiques. Ils ont un monopole assez massif des télécommunications, de la culture, du sport, du BTP, de l'immobilier, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et en plus de ça, vous avez une mainmise administrative et bureaucratique. Ce qui fait que, à l'échelle provinciale, l'Iran est composé de 24 provinces. À l'échelle provinciale, les gardiens de la Révolution peuvent tout à fait intervenir pour mobiliser la police à l'échelle locale et à l'échelle de la municipalité. Ce qui fait que leur agenda se dédouane petit à petit aussi d'un clergé chiite qui, finalement, a de moins en moins de mise sur la population et le régime iranien.
Donc de moins en moins de mise. Néanmoins, ce clergé, il faut rappeler, je crois au passage, que dans la branche chiite de l'islam, en principe, il n'y a pas de hiérarchie, à la différence des sunnites. Néanmoins, ce clergé, il est aussi omniprésent. Et le guide suprême, Khamenei, qui a 86 ans, qui ne s'est pas exprimé, semble-t-il, hier vendredi, Sophia, le guide suprême conserve un ascendant spirituel important.
Oui, parce que c'est le fondement du régime qu'on appelle de la velayet et fekir, donc celui qui a été créé en 1979, qui est la guidance du juriste, donc le délégué de Dieu sur terre, qui est un principe fondamental de la République islamique. En revanche, il est vrai que même si officiellement ce corps des gardiens de la Révolution soutient encore ce principe de la velayet et fekir, et d'ailleurs c'est la base identitaire du corps des gardiens de la Révolution, c'est pour ça que ce corps a été créé en 1979, c'était pour défendre à la fois militairement et idéologiquement le régime islamique. Mais en revanche, on observe quand même qu'il y a de plus en plus de dissensions, voire de prises à distance, non pas à des fins idéologiques, mais plutôt à des fins de pouvoir. Le but des gardiens de la Révolution, de certains gardiens de la Révolution, n'est pas forcément de maintenir le guide suprême coûte que coûte, mais d'avoir les mains libres pour pouvoir alimenter ce système parallèle et cette répression dans tout le pays. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte également. C'est une évolution assez contemporaine. Mais parler d'un régime des mollahs aujourd'hui, finalement, on commence à être erroné dans l'analyse, parce que c'est dans ce système parallèle que tout se passe aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que parler d'un changement de régime sera très compliqué si on n'arrive pas à pénétrer et démanteler ce système économique parallèle et ce système bureaucratique tenu par les gardiens de la Révolution.
Clément Terme, ce système économique, bureaucratique, donc cette forme-là d'oligarchie, correspond aussi à un régime qui est sorti affaibli de cette guerre de 12 jours menée par Israël, soutenue quelques jours après par les États-Unis. Donc c'était en juin dernier. Et puis il y a l'affaiblissement régional, puisque la République islamique a perdu de larges... D'abord la Syrie, Bachar est tombé, le Hezbollah et le Hamas fortement affaiblis.
Oui, tout à fait. On observe que ce mouvement social surgit dans un moment qui est différent par rapport à 2022-2023, avant le 7 octobre, donc le mouvement Femmes, Vie, Liberté. À ce moment-là, la République islamique disposait encore d'un réseau d'influence dans la région qui était assez important, et avec des relais d'influence qui permettaient à cet appareil de sécurité transnational, parce qu'une autre spécificité des gardiens de la Révolution, au-delà des questions économiques, c'est cette présence idéologique et sécuritaire au-delà des frontières iraniennes. Et c'est là aussi qu'il y a une ambiguïté sur l'avenir du régime, puisque cette projection à l'extérieur entraîne l'affaiblissement à l'intérieur. Donc il faut bien noter qu'en tout cas la force idéologique des gardiens de la Révolution n'est pas préoccupée d'abord par des intérêts économiques, elle est préoccupée par la mission que le guide lui a donnée, qui est celle d'étendre l'influence de la Révolution islamique au Moyen-Orient, au-delà de la société iranienne. Alors c'est vrai qu'il y a cette adaptation, parce que l'endoctrinement a échoué à convaincre la majorité, si vous voulez, de la population iranienne à l'intérieur du pays, mais les forces de sécurité, elles continuent de réprimer au nom de Dieu. Donc elles sont dans la mission que leur a donnée le guide, et c'est pour ça que le régime a désigné les manifestants comme ennemis de Dieu, donc, et d'autres formulations qui les qualifient comme terroristes, et compare les manifestants à Daesh. Donc ceux qui voudraient voir dans les gardiens de la Révolution une force nationaliste, ou alors, comme vous évoquez la guerre des 12 jours, ceux qui ont mentionné à l'époque un ralliement nationaliste derrière les autorités de la République islamique se trompent lourdement, puisque, encore une fois, il s'agit d'un projet transnational. Il ne s'agit pas d'un projet à l'échelle de l'Iran. Donc c'est là aussi que les rivalités internes au pouvoir sont limitées, en fait, par la confrontation en cours entre l'appareil de sécurité et la majorité de la population. Donc il faudra voir si, par contre, l'appauvrissement du pays, qui est une réalité, donc la crise économique, finalement, produit une rupture à l'intérieur du régime, avec l'affaiblissement des ressources, puisque la loyauté de ces forces est garantie aussi par l'engagement idéologique, mais aussi par le paiement du salaire. Donc pour les gardiens de la Révolution, c'est environ $300. Pour l'armée régulière, c'est entre 100 et $200. Donc il y a deux armées pour éviter des coups d'État également. Donc c'est ça aussi, cette capacité du régime à garder son unité sera décisif, parce que il y a cet affaiblissement régional que vous mentionnez, et l'argument que finalement la République islamique assure une certaine stabilité au pays, c'est un argument qui était utilisé jusqu'en 2024-2025 avec les confrontations directes avec Israël. Mais aujourd'hui, la République islamique a entraîné l'Iran dans la guerre, et donc les gardiens de la Révolution, c'est la force aérospatiale des gardiens de la Révolution qui est en charge de la confrontation avec Israël. Donc on a vu le régime, avec l'affaiblissement régional, faire évoluer sa doctrine de sécurité. On est passé d'une doctrine de sécurité qui était fondée sur le réseau d'influence à une doctrine de sécurité qui est désormais plus fondée sur l'utilisation des missiles et des drones. Et en ce sens, les éliminations des dirigeants, des gardiens de la Révolution par Israël lors de la guerre des 12 jours ont conduit à un affaiblissement de cette force militaire et à sa perte de crédibilité. Mais le guide a nommé des remplaçants, donc chaque dirigeants, si vous voulez, militaires des gardiens de la Révolution font allégeance au guide, et la chaîne de commandement est très claire, et le guide contrôle l'ensemble de l'appareil de sécurité. C'est vrai que l'administration Pezeshkian, qui est entre guillemets un modéré, n'a que très peu de pouvoir, et c'est un jeu de rôle, si vous voulez, au sein de la République islamique puisqu'il est là pour prendre en compte, dans une certaine mesure, les revendications de certains manifestants, tout en reprenant, si vous voulez, le récit du régime. On a même vu le président Ratami répéter dans la guerre informationnelle. Donc il n'y a pas, pour l'instant, d'alternative à l'intérieur du système, même si, si la confrontation perdure à la fois sur le front interne et vis-à-vis des puissances régionales comme Israël et des États-Unis, on pourrait voir dans les prochains mois, peut-être aussi au-delà de la question de la loyauté des forces de sécurité, la question de l'unité du régime se poser pour savoir quelle est la meilleure méthode pour sauver la République islamique qui n'a pas de solution à apporter aux manifestants sur le plan économique.
Bruno Tertrais, Donald Trump, affirmant, on en parlait tout à l'heure, qu'il avait reçu des assurances qu'il n'y aurait plus d'exécution, plus de pendaison, comme si la pendaison était devenue l'unité de compte de l'attention qu'on peut porter à ce qui se passe en Iran. Donald Trump a promis d'asséner des droits de douane supplémentaires de 25% à tous ceux qui continueraient de commercer avec l'Iran, a commencé évidemment par la Chine qui achète à l'Iran énormément de pétrole. Donc il y a à la fois pour la Chine le problème du ravitaillement et une relance éventuelle de ce duel commercial avec les États-Unis que jusqu'à présent Pékin a gagné.
Oui, tout à fait. Pékin, on peut dire, en effet, gagné l'épreuve de force, en tout cas temporairement avec Donald Trump, tout simplement parce que Pékin a compris, contrairement à nombre de pays occidentaux, que pour traiter avec Donald Trump, il fallait le faire de façon calme mais ferme. Et c'est ce qu'a fait Pékin. Alors, je serais très étonné que Donald Trump prenne des décisions majeures sur les droits de douane avec la Chine avant sa visite prévue au printemps. En tout cas, ça viendrait disrupter l'équilibre fragile qui a été trouvé au moins pour quelques mois dans les relations commerciales entre Washington et Pékin. Il reste que pour la Chine, effectivement, l'enjeu est majeur parce que cette année, ou plutôt en fin d'année dernière, l'Iran était devenu le premier fournisseur étranger de pétrole à la Chine. Donc, comme les acteurs régionaux dont nous avons parlé tout à l'heure, la Chine craint aussi le chaos. Elle craint une situation où elle verrait, par exemple, même si elle était beaucoup moins dépendante du pétrole vénézuélien, la disruption et le chaos qui avait cours depuis plusieurs mois, même avant l'intervention américaine dans la distribution de pétrole vénézuélien, ça serait infiniment plus important pour la Chine si les événements en cours en Iran devaient affecter la fourniture de pétrole iranien à la Chine. Effectivement, c'est sans doute le facteur le plus important à ce stade pour la Chine.
Qu'en est-il de l'autre grand allié, la Russie ? Vladimir Poutine, d'après son porte-parole, s'est entretenu hier avec le Premier ministre israélien. Il doit téléphoner aujourd'hui au président iranien, Pezeshkian, pour travailler, selon le Kremlin, à la désescalade. Quels sont les enjeux pour la Russie qui, franchement, se révèle un assez mauvais allié, qu'il s'agisse de la Syrie ou du Venezuela récemment?
Oui, la différence entre la Syrie, le Venezuela et l'Iran, c'est qu'il y avait une formalisation de l'alliance militaire entre la Russie et la Syrie, puisqu'il y avait une réactivation d'un vieil accord de défense entre les deux pays, alors que le Venezuela est un pays ami, l'Iran également, mais ce ne sont pas les alliés au sens formel du terme. Mais vous avez raison d'insister sur ce point, parce que les choses se passent plutôt mal pour la Russie dans la gestion de ses amitiés et de ses alliances extérieures depuis plusieurs mois. Alors, les efforts diplomatiques du Kremlin, je crois qu'il ne faut pas y accorder énormément d'importance. À chaque fois qu'il y a une grande crise internationale, Vladimir Poutine se présente, la diplomatie russe se présente comme faiseuse de paix, comme intermédiaire obligée. Je ne suis pas du tout certain que son rôle soit véritablement essentiel là-dessus. En tout cas, il ne fait pas de doute que la Russie soutienne encore pleinement le régime. D'ailleurs, il y a des technologies de surveillance qui sont sans doute assez précieuses, d'origine russe, qui sont sans doute assez précieuses pour le régime. Mais ce régime sait sans doute, en tout cas sans doute compris en juin 2025, lors des frappes israéliennes et américaines, que la Russie ne viendrait pas au secours militairement. Je ne sais pas si d'ailleurs il s'y attendait, mais en tout cas, l'absence de toute réaction forte de la part de la Russie en juin 2025 fait que le régime n'entretient probablement pas d'illusions, si tant est qu'il n'en ait jamais eu, quant à l'ampleur du soutien russe si les choses devaient s'aggraver pour le régime iranien. Un dernier point important, vous connaissez l'importance de l'assistance iranienne pour l'opération russe en Ukraine, pour l'agression de la Russie en Ukraine, dans le domaine des drones en particulier. Là, il me paraît difficile de prévoir si la situation actuelle en Iran peut affecter cette assistance militaire iranienne, mais je crois que les Russes sont quand même beaucoup moins dépendants de l'assistance de l'Iran en matière de drones pour la guerre qu'ils mènent en Ukraine que ce n'était le cas il y a encore 2 ans.
Azadeh Kian, hier à Washington, le fils de l'ancien Shah, qui avait été déposé par d'immenses manifestations en 1979, donc Reza Pahlavi, qui vit aux États-Unis en exil depuis longtemps, a déclaré lors de cette conférence de presse qu'il était convaincu que la République islamique allait tomber. Il appelle à une intervention ciblant les gardiens de la Révolution et il a ajouté qu'il retournerait en Iran. On a vu, on ne sait jamais avec les images désormais si elles sont fabriquées ou pas, mais on a vu des manifestants lors des premiers jours des événements, brandir son portrait. Que représente ce retour éventuel ou cette incarnation d'une forme d'espoir qui est paradoxale?
Écoutez, tout d'abord, il faut dire que les images, il faut faire attention, on sait qu'il y a beaucoup de fake dans les images, bien évidemment, y compris dans les slogans. On sait que, par exemple, un certain nombre de gens chantaient « mort à Khamenei, mort au dictateur » et on entendait « vive le roi ». Donc, il faut faire attention. Je ne nie pas que Reza Pahlavi et aussi le régime du Shah, du fait d'une nostalgie fabriquée par un certain nombre de médias occidentaux qui diffusent des programmes en persan, a ses propres soutiens en Iran, mais en tout cas, ça fait 47 ans qu'il habite à l'étranger et qu'on n'est pas l'Iran. Je pense qu'il a aussi sa part de responsabilité. Bien évidemment, c'est le régime qui a massacré les manifestants, mais en fait, appeler les gens à aller manifester sans aucune structure, sans aucun soutien de la part des forces de coercition auraient prétendu avoir le soutien de 50 000 personnes au sein des forces armées. Et c'est ça aussi qui a encouragé un certain nombre de gens de le suivre, et de suivre son appel et d'aller manifester, de se faire massacrer. Et il y a tout ça. Et donc, effectivement, Reza Pahlavi aussi a soutenu, ne l'oublions pas, le bombardement de l'Iran par Israël en juin 2025. N'oublions pas aussi les 1200 tués civils iraniens du fait de ces bombardements. Des immeubles entiers résidentiels à Téhéran, par exemple, ont été bombardés, les civils innocents ont été tués, des prisonniers dans la prison d'Evin ont été tués, etc. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, bien évidemment, il est loin d'avoir la majorité, le soutien de la majorité de la population. Premièrement, 50% de la population iranienne est constituée de minorités ethniques et religieuses, à commencer par les Azéris iraniens, c'est-à-dire les Turcs, les Kurdes, les Baloutches, les Arabes, les Turkmènes, etc., qui étaient dans la rue, dans l'ensemble du pays, qui n'ont jamais scandé son nom. Ils ne sont absolument pas contents du régime du Shah non plus, parce que c'était des oubliés de ces politiques de modernisation de Pahlavi à l'époque, et ils sont toujours aussi contestataires, comme on le sait, par rapport au régime islamique d'Iran. Reste l'autre 50% de la population.
Pardon, je vous interromps, mais on pourrait comprendre que pour les jeunes en particulier, il y a une nostalgie d'un certain âge d'or où il y avait à la fois un certain progrès social, notamment au niveau de l'éducation des femmes, de l'insistance sur la science, la technique, et de l'autre côté, la SAVAK, évidemment, est un régime tortionnaire. Mais cette nostalgie par rapport à la désolation de pour toute cette jeunesse, je crois que la moyenne d'âge en Iran est de 32 ans, on peut comprendre cette forme de nostalgie.
On peut comprendre cette forme de nostalgie pour qui, effectivement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, pour une partie de la population iranienne, essentiellement pour moi constituée de Perses qui habitent dans des grandes villes, etc., qui n'étaient même pas encore nés à l'époque du Shah d'Iran, mais qui reçoivent des images aussi de l'époque du Shah, par exemple, la grandeur de l'Iran, le fait que l'Iran a été effectivement respecté à cette époque-là, etc. Et donc, c'est loin d'être la vérité réelle de l'Iran de l'époque, lorsque 53% de la population iranienne habitait en milieu rural, sans eau, sans électricité. Le taux d'analphabétisme des femmes était énorme. 80% des femmes iraniennes à l'époque étaient analphabètes. Pourquoi ? Parce que la majorité d'entre elles habitait en milieu rural et étaient analphabètes. Le taux de mortalité infantile était de 132, etc. Et chaque iranienne donnait naissance à 8,8 enfants aujourd'hui, c'est 1,4 pour vous dire, Christine, que malgré le régime islamique sanguinaire, incompétent, corrompu, la société iranienne a beaucoup changé. Donc, cette nostalgie, certes, existe chez certains, y compris moi, je connais des gens qui ont cette nostalgie-là, mais Reza Pahlavi, en fait, est devenu pour eux un leader par défaut. C'est ça
que... Oui. Il y a aussi, Azadeh, au sein de la société, notamment de la jeunesse, un tel dégoût du régime qu'il y a une désislamisation. Les Iraniens sont de moins en moins religieux. Il y a une étude intéressante qu'a publiée la Fondapol, où à peu près 70% de la population ne se sentirait plus concernée par la religion.
Et effectivement, la société iranienne, je le dis depuis maintenant 30 ans, est une société largement laïcisée. C'est-à-dire, si vous voulez, que même des personnes qui sont religieuses font leurs prières chez eux. On est face à la privatisation de la religion. Il y a encore une partie des Iraniens, bien évidemment, qui sont très croyants ou très pratiquants. Mais en fait, la jeunesse iranienne, effectivement, est largement laïcisée. Et donc, c'est la raison pour laquelle les institutions actuelles, le guide au pouvoir, le pouvoir des clergés, ça ne correspond absolument pas à la réalité de cette société qui, n'oublions pas, est très moderne. 80% des Iraniens habitent en milieu urbain, ils sont très laïcisés, ils sont très bien formés, le taux d'alphabétisation des Iraniens avoisine les 100%, etc. Même si du fait de la pauvreté, depuis maintenant au moins 5 ans, il y a depuis le Covid en particulier, il y a beaucoup de pauvres qui ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l'école, etc. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ces institutions politiques, religieuses, économiques, etc., ne correspondent absolument pas à la réalité de cette société. Bon, des raisons pour laquelle tous les ans, on voit les gens dans la rue, parce qu'il n'y a aucun aussi canon de négociation possible entre les populations mécontentes et le pouvoir. Donc, les gens prennent les rues pour dire non à ce régime. Effectivement, et c'est un pays vraiment, au niveau de sa société, laïcisé. Vous savez, il y a eu des sondages aussi qui montraient que 80% de la population, déjà avant le mouvement Fin des Libertés, était mécontente de ce régime et souhaitait le changement, que la majorité écrasante était pour la liberté des femmes de choisir le vêtement qu'elles souhaitent porter, etc. Donc, en fait, voilà, c'est ça la réalité de ce régime. Oui.
Sophia Marroug, vous avez beaucoup travaillé sur le web, sur la mémoire des gardiens de la Révolution, sur le web. Ce que l'on voit aussi depuis 3 semaines, c'est l'épaisseur des entreprises de désinformation de tous les côtés, qu'il s'agisse du régime, bien évidemment, qu'il s'agisse sûrement de la Russie, qu'il s'agisse d'Israël, qu'il s'agisse des États-Unis. Il y a un choc des récits et on ne sait pas finalement, même dans un pays où l'Internet est coupé, et c'est encore le cas en ce moment même, à midi moins le quart, ce samedi, heure de Paris, Comment est-ce que cette désinformation travaille au cœur l'opinion publique, non seulement en Iran, mais à l'étranger aussi?
Oui, alors tout à fait, il y a une bataille des récits qui est indéniable de tous les côtés, et les gardiens de la Révolution et le régime iranien l'ont très bien compris, et d'ailleurs dès les années 90, la radio-télévision de la République islamique avait fait en sorte de créer des chaînes d'information en langue étrangère, mais venant d'Iran, pour accompagner toutes les initiatives des forces externes des gardiens de la Révolution, qu'on appelle les forces CODES. Et donc, les gardiens de la Révolution, dans leur doctrine, ont très bien compris que la guerre informationnelle était au cœur de tout ce qui était contournement de la lutte armée dans le régime islamique. Ce qui fait que, outre les chaînes d'information qui sont diffusées sur Internet et qui sont maîtrisées par les gardiens de la Révolution, on a plusieurs organes de presse. On a les réseaux sociaux aussi, qui sont des réseaux sociaux souvent internationaux, qui sont pourtant interdits en Iran, et on est obligé d'utiliser un VPN à l'intérieur de l'Iran, et pourtant les gardiens de la Révolution les utilisent aussi, donc X, Instagram, et les messageries WhatsApp. Donc il y a cette possibilité de la part du régime de diffuser des récits dans des langues étrangères pour influencer l'opinion publique internationale. Ensuite, il y a une autre stratégie du régime islamique qui est la création d'un Internet national, un intranet qui a commencé à être construit progressivement à partir des années 2010 au lendemain du mouvement vert de 2009 pour mieux contrôler les messages qui étaient transmis de l'extérieur de l'Iran à l'intérieur de l'Iran, donc toutes les chaînes d'information américaines et britanniques qui sont transmises en persan. Je pense à Voice of Farsi, Voice of America Farsi, BBC Persian, etc. Toutes ces chaînes d'information, le régime islamique cherche à les bloquer. Et la création de cet Internet national vise à créer un Internet complètement coupé de l'extérieur pour que les opinions externes créées par des médias d'information étrangers en persan ne parviennent pas à l'opinion publique iranienne. Et ce qu'on observe, c'est que lors du premier blocage qui a duré une semaine pendant les manifestations de 2019, cet Internet national était beaucoup moins développé. Ce qui faisait que quand on était à l'intérieur de l'Iran, on pouvait accéder à des applications nationales de messagerie, de services de VTC, etc. Mais le système n'était pas assez perfectionné, il n'existait pas assez d'applications ou de réseaux sociaux iraniens du régime pour qu'il y ait un écosystème numérique qui se crée. Aujourd'hui, c'est très différent en 2025-2026 parce que les efforts pour créer et développer cet Internet national ont fait qu'aujourd'hui, ce réseau est beaucoup plus massif. Donc l'objectif pour le régime iranien, c'est de créer un système d'information intérieur où les Iraniens seraient le plus possible coupé de l'information extérieure et donc coupé des messages, par exemple, de Reza Pahlavi, le fils héritier du Shah, tout en accoutumant les Iraniens à des messageries nationales pour mieux crypter et tracer l'organisation des manifestations, les paroles dissidentes, etc.
Clément Terme, cette guerre informationnelle, elle a un coût, évidemment, elle a un coût pour le régime, mais ce qu'on voit, c'est que la diaspora, cette espèce d'Iran global, il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'Iraniens aux États-Unis en particulier, cet Iran global s'exprime désormais beaucoup plus qu'auparavant.
Oui, exactement. On a vu en 2022-2023 avec le mouvement Femmes, Vie, Liberté, apparaître finalement une autre image de l'Iran que celle que voulait imposer la République islamique. Donc ce qu'on peut dire sur les dimensions techniques qui ont été expliquées, c'est qu'elles ont échoué très largement sur le plan politique, à la fois à convaincre l'opinion publique iranienne du bien fondé des préférences idéologiques de la République islamique, qu'il s'agisse de la question des femmes, de l'égalité femmes-hommes, de leur vision des relations internationales, de la politique régionale, Parce que quand on voit les slogans des manifestants dans les manifestations populaires depuis 2009, mais surtout depuis 2017-2018, qui sont des manifestations systémiques, où il y a des slogans favorables à l'ancien régime qui sont apparus à ce moment-là, on voit finalement l'échec de tout ce système de propagande. Donc Azadeh a bien expliqué la transformation de la société, la démographie, mais également sur le plan idéologique, on a vu un échec de la République islamique. Et à travers les médias en persan, donc on a parlé de la Voix de l'Amérique en persan, il y a la BBC en persan, il y a la chaîne Iran International, et on voit que finalement, plus que de questionner la crédibilité du récit de l'opposition, les Iraniens de l'intérieur, eux, questionnent la crédibilité du récit de la République islamique. Donc c'est vrai que les débats que l'on a en Occident sur Reza Pahlavi, est-ce que il serait par défaut ou positif, est-ce que les opinions favorables à l'ancien régime sont fabriquées de l'extérieur, ou est-ce qu'elles sont au contraire le produit d'une profonde nostalgie et d'une revanche générationnelle des plus jeunes par rapport à leurs parents qui ont fait la révolution, et finalement leurs enfants leur font le reproche aujourd'hui d'avoir participé à ce mouvement. Il y a de très nombreux Iraniens d'un certain âge en Iran qui regrettent d'avoir participé à la révolution islamique, puisqu'ils comparent, si vous voulez, les performances du nouveau régime dans tous les domaines, les droits humains, l'économie, la sécularisation, la politique étrangère, avec celle de l'ancien régime. Et c'est vrai que personne ne réhabilite l'ancien régime, parce que, dans tous les cas, la question de Reza Pahlavi pose non, pas seulement la question de la restauration, mais celle de l'instauration d'un nouveau système, qui pourrait être une république ou une monarchie constitutionnelle. Et donc, on voit finalement que cette cristallisation extérieure sur Reza Pahlavi est en décalage avec la situation interne du pays, puisqu'à l'intérieur du pays, la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle de l'effondrement idéologique du régime qui a déjà eu lieu. Donc tout ce système de propagande, tous ces milliards de dollars que le régime a investis, même dans Press TV, la CNN iranienne. Donc on a cru le 7 octobre que ce système avait gagné finalement, puisque à l'époque, le fait d'avoir placé la Palestine au centre de l'action politique de la République islamique avait été perçu par la République islamique comme une victoire idéologique dans la région. Et finalement, au contraire, on a vu que ça a conduit à l'affaiblissement militaire extérieur du régime, à la chute de Bachar al-Assad en Syrie, donc au repli, finalement, de la République islamique sur ses frontières. Donc finalement, on a surévalué, si vous voulez, la puissance à la fois des gardiens de la Révolution, de leur appareil médiatique et de leur capacité à convaincre à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et les médias en persan en exil ont proposé une autre forme d'iranité, l'existence d'une identité iranienne ouverte sur le monde, cosmopolite, et l'existence d'identités multiples aussi en Iran, alors que le régime a voulu enfermer les Iraniens dans une identité essentialiste, on pourrait dire intégriste, avec pour seule dimension l'adhésion à l'idéologie de l'ayatollah Khomeini, donc une fusion du religieux et du politique, et cela n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, il y a cette quête d'un autre Iran au sein de la population, une volonté d'une transformation fondamentale, non seulement sur le plan idéologique, mais aussi économique. C'est ce qu'on appelle une normalisation, cet Iran normalisé que les Iraniens souhaitent, avec un régime qui se préoccupe du bien-être de la population et non pas d'un projet idéologique transnational.
Azadeh Kian, on arrive à la conclusion très provisoire, bien sûr, de cette discussion. Mais avant de parvenir à cet Iran revisité, normalisé, le régime reste en place, d'autant plus féroce qu'il se rend compte de ses propres fragilités. Quel espoir pour une jeunesse, pour une société, encore une fois, qui compte ses morts, qui redoute le sort des milliers de prisonniers qui viennent d'être arrêtés?
Effectivement, écoutez, pour l'instant, ce qu'on voit de l'Iran et ce que j'entends, c'est que les gens sont extrêmement déprimés, que pour l'instant, ils sont en train de, comme vous dites, compter leur mort, mais ça va pas rester comme ça parce que vous savez, depuis on l'a dit 2009 jusqu'à aujourd'hui, tous les ans ou toutes les quelques années, les Iraniens recommencent à manifester, recommencent à lutter contre ce régime et recommencent à revendiquer, et les revendications restent entières au niveau économique, on l'a dit, au niveau politique, idéologique, etc. Donc en fait, ce que je vois, c'est que il y aurait bien évidemment, comme après chaque répression féroce, et cette fois-ci, c'est pas seulement une répression, c'est vraiment un massacre, eh bien, la société va réfléchir, mais les gens vont de nouveau sortir. Moi, je pense que, par exemple, j'ai vécu donc les événements qui ont abouti à la chute du régime du Shah, c'était la grève générale qui a complètement paralysé le régime. Je pense que, par exemple, une grève générale sans effusion du sang, si vous voulez, qui avait commencé déjà le 28 décembre, peut effectivement continuer et peut constituer d'une façon efficace de paralyser le régime. Je pense que beaucoup d'Iraniens ont beaucoup compté, pas beaucoup, mais enfin, il y a quand même des manifestants qui ont compté sur le président Trump et sur une intervention américaine. Mais aujourd'hui, après ce qui s'est passé, eh bien, ils se sont rendus compte que les intérêts nationaux des États-Unis ne sont pas les mêmes que les intérêts nationaux des Iraniens. Je pense que cette diversité de l'Iran, effectivement, comme disait Clément, cette volonté de normalisation est partagée par énormément d'Iraniens. Et donc, afin de se libérer de ce régime qui est à la fois corrompu, dictatorial, incompétent et sanguinaire, eh bien, les Iraniens ne doivent compter finalement que sur eux-mêmes, donc à travers leurs propres moyens, en faisant appel à leurs propres moyens. Et pour ça, il faut faire une coalition. Reza Pahlavi, à lui seul, ne pourra pas constituer cette coalition-là, cette figure-là, pardon, mais il faut aller vers, à mon sens, une coalition de l'ensemble des forces politiques en lice.
Avec des forces d'opposition qui seraient capables de s'organiser en interne.
En interne, ils sont, vous savez, si vous regardez les Baloutches, les Kurdes, les Turcs, etc., on a identifié leurs responsables, leurs leaders, etc. Il y a des partis politiques, parfois il y a aussi des dirigeants religieux sunnites qui sont vraiment très efficaces aussi et qui sont très écoutés par leur propre population. Avec d'autres, il y a aussi ce qu'on appelle une gauche nationale en Iran, c'est-à-dire des démocrates, des républicains, il y a des monarchistes, effectivement. Il faut que tout le monde puisse se réunir et constituer une coalition.
Que tout le monde puisse se réunir, c'est évidemment sur cette note d'espoir, Azadeh, que nous allons conclure cette émission, mais non sans une pensée pour Cécile Koller et Jacques Paris, qui sont toujours à l'ambassade de France à Téhéran. Ils ont pu être extraits de leur prison où ils ont passé l'un et l'autre plusieurs années, mais évidemment, on pense à eux aussi, et on pense à l'Iran. Merci à vous, Azadeh. Je rappelle votre ouvrage « Repenser le genre, l'origine ethnique et la religion en Iran ». C'est paru en anglais aux éditions Bloomsbury et ça a été réédité en 2025. Sophia Marouk, vous avez reçu l'an dernier le prix scientifique de l'IHEDN pour votre thèse sur les gardiens de la Révolution, cette thèse qui sera publiée aux Presses universitaires de France en septembre prochain. Clément Terme, deux livres parus au Cavalier Bleu l'an dernier, « Idées reçues sur l'Iran » et « Téhéran, Washington » aux éditions Hémisphère. Bruno Tertrais, vous avez publié l'an dernier une nouvelle édition de « La guerre des mondes » aux éditions Alpha. Voilà la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Ninetta Djaoura, Théa Corlaire m'a aidé à préparer cette émission, bien sûr, ainsi que Patricia Miourat, la documentation de Radio France. Et dans un instant, voici Marina Carrère-Dancausse et ses carnets de santé. Très bon week-end et à samedi prochain.